France Musique.
Je t'emporte, ô mon amour, nuit et jour.
Bonsoir à tous et bienvenue dans le Classic Club sur France Musique tous les soirs de la semaine entre 22h et 23h en direct sur France Musique depuis l'hôtel Bedford à Paris au 17 rue de l'Arcade qui nous accueille, nous, nos spectateurs éventuels et nos invités, et ça c'est sûr qu'ils viennent. Ce soir ils sont à deux, Michael Schoenwandt qui dirige depuis quelques jours Wozzeck à l'Opéra de Paris et Jean-Yves Clément qui vient de nous redonner un Chopin en livre avant de parler de lui et de faire entendre sa musique à Nohant dans quelques jours. Nous sommes ensemble jusqu'à 23h. Bienvenue à tous dans le Classic Club. ça finit pas vraiment, mais il y a quelque chose derrière, un opéra. C'était l'ouverture de Mascarade de Carl Nielsen, dirigée par Michael Schoenwandt avec l'Orchestre Symphonique National du Danemark, un disque paru il y a à peine 2 ans sur le label Da Capo. Bonsoir Michael Schoenwandt.
Bonsoir.
Dites-moi, c'est une musique magnifique que vous avez choisie en ouverture, bah, parce que c'est vous qui dirigez, mais pas seulement, c'est parce que
c'est... Non, c'est pas un tel égoïsme, hein. C'est parce que c'est le premier opéra que j'ai connu par cœur. À l'âge de 11 ans. Donc, alors j'ai vraiment connu toutes les notes à partir de là, et ça m'a touché profondément, marqué profondément. C'est l'esprit danois qui est dedans, mais c'est aussi l'esprit français, parce que c'est passé sur une pièce de théâtre de notre Molière, Holberg. Mmh. Alors, donc, c'est une pastiche de Molière ou de Holberg qui... Bah, très bien, je crois, ici, avec l'esprit français.
Qui devrait aller bien avec l'esprit français, ouais, mais on joue quasiment jamais en France pour autant.
Je crois que c'est jamais été donné ici, ni en concert, ni sur scène, alors j'ai bien envie de le faire un jour ici.
Ah bah oui, pourquoi pas, Montpellier, ouais. Enfin, on peut donner lancer l'idée, voilà. Comme ça, je crois que vous l'avez lancé il y a quelques temps déjà, Michael Schoenwandt, on reparlera de l'orchestre de l'Opéra de Montpellier que vous dirigez depuis quelques années tout à l'heure. Cette mascarade-là, c'est un opéra comique, on l'a bien entendu derrière l'ouverture. Voilà. Hein. Vous me disiez d'ailleurs, c'est l'opéra national danois quasiment.
C'est notre opéra national. Il y a tout l'esprit des Danois dedans, l'humour, l'amour, la neige, la lumière, tout ça que nous avons sur nous. Alors, il y a beaucoup d'atmosphère dedans.
Ah ouais. Vous êtes Danois, on l'aura compris, Michael Schoenwandt. Ouais. Mais enfin, si je peux vous faire une remarque sur votre nom, vous avez un Schoen allemand dans votre nom, vous avez un Wandt anglais,
c'est-à-dire... Non, Schoenwandt, ça veut dire des beaux vêtements.
Chez vous, vous avez des beaux vêtements,
ouais, non, en allemand, parce que mon grand-père est venu d'Allemagne, et mon père s'est écrit encore avec un O pareil comme les Allemands, mais mon père voulait montrer après la guerre que nous ne sommes plus Allemands, que nous sommes Danois, donc il a changé le O allemand avec le O
danois. Pareil, c'est ouais, ça. Non, mais je vous disais ça parce que Wandt en anglais, c'est la baguette. Donc oui. Si je fais de l'anglais germanique, ça veut dire que vous appelez Michael Schoenbaguette, enfin belle baguette.
Voilà. Oui, c'est ça, beau mur, comme on peut dire. Bah, Wandt, c'est mur en allemand, voilà.
Ah oui, mais je veux
dire, choisir.
C'était prédestiné pour faire la direction d'orchestre, ça quand même. Plus, hein, ou, moins, baguette, voilà. Plus ou moins, quand même. Ça vous êtes venu comment d'ailleurs, la direction tout seul comme ça, ou avec un instrument auparavant, genre le piano, hein?
Non, j'ai joué le piano, l'alto, un peu de basson. Ah oui. Mais je crois pas que j'étais tellement doué, alors qu'est-ce qu'il reste, être critique ou être chef d'orchestre? Alors je préférerais d'être chef d'orchestre quand même. Oui, non, j'ai toujours aimé d'être devant les gens, travailler avec les gens, les musiciens et avec la musique, donc ça m'a lié comme ça, ouais. Très très vite à devenir chef d'orchestre.
C'est quoi un chef pour vous? Quelqu'un qui dirige les autres ou quelqu'un qui, comme vous avez l'air de le dire, joue avec?
Joue ensemble, je crois. C'est plutôt mon idée de travailler ensemble, de montrer le chemin, la route qu'on va prendre ensemble, les musiciens et moi, et le public. Je suis au milieu entre les musiciens et le public, et on essaye de transmettre les émotions dans les deux côtés.
Mmh. Et c'est pas vous qui jouez? Je dis toujours ça parce que parfois les chefs d'orchestre me disent « Mais mon instrument, c'est l'orchestre, mais en même temps, je ne joue d'aucun instrument. »
C'est la discussion éternelle chez nous à la maison, parce que ma femme est pianiste. Ouais. Et quand j'entre, je dis « J'ai joué la cinquième de Beethoven. » Elle dit « Non, 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 tu ne veux pas jouer, tu es dirigé. » Et j'essaie de l'expliquer que pour moi, la touche qu'on peut avoir avec un orchestre, ouais. c'est pas la même comme un pianiste, c'est évident. Mais ça peut être semblable quand même.
Vous avez l'impression, en tout cas, de toucher, vous dites bien que c'est un clavier en face de...
Non, je vois pas l'instrument, mais je sens que je peux changer le son avec les gestes, avec les mouvements que je fais, comme un pianiste, comme un musicien.
Je salue Jean-Yves Clément. Bonsoir Jean-Yves.
Bonsoir Lionel.
On parlera de Frédéric Chopin avec vous un peu plus tard dans cette émission.
Pourquoi pas.
À l'occasion d'un livre qui nous arrive ici aux éditions Le Passeur. Son titre, Les deux âmes de Frédéric Chopin. On va pas dire tout de suite ce que c'est les deux âmes en question, mais le livre en question, il y en avait eu un autre sur Chopin il y a quelques années. Hein. C'était tout à fait un autre ou c'est une reprise?
C'est un remix, c'est comme ça qu'on dit?
Ah oui?
C'est pas tout à fait un autre, mais quand même, c'est élargi, augmenté suffisamment pour que ça mérite sans doute une publication. En tout cas, c'est ce que... qu'on m'a demandé de faire et ce que j'ai voulu faire, poétiser davantage le sujet.
Ouais, c'est-à-dire que vous aviez envie d'approfondir le sixième encore. On n'en finit pas avec Chopin comme on n'en finit jamais avec Liszt non plus. Hein.
Ah, mais Liszt, c'est bien pire.
Bien pire encore. C'est un univers où on se perd. Enfin, on peut se perdre dans Chopin. On le verra avec votre lecture tout à l'heure de cette œuvre et de cet homme aussi, puisque vous parlez bien évidemment des deux dans ce livre. Michael Schoenwandt, c'est vous qui avez choisi les extraits musicaux qu'on va entendre là. Et entre autres, ceci. Alors, ça m'a surpris. Du Courtag, oui, pourquoi pas. Extrait d'une pièce pour quatuor à cordes. Et vous me racontiez avant de commencer. C'est l'émission que vous connaissez très bien, Gueorgui Courtag.
Oui, on m'a demandé de faire la création de son concerto pour violon et alto et grand orchestre, qui s'appelle Concertande, que j'ai créé il y a 15 ans maintenant à Copenhague. Et j'ai travaillé très, très étroitement avec Courtag à l'époque. Il m'a impressionné, il m'a fait peur, il m'a fait comprendre beaucoup de choses de la musique, de la concentration de la musique que j'ai pas compris avant. Alors, je lui dois beaucoup dans ma musique à moi.
Vous dites, il vous a fait peur, ça veut dire qu'il fait peur même à un chef d'orchestre, Courtag, pour dire qu'il est redoutable.
Non, je suis un être humain, je suis pas. Oui, bien sûr, parce que la peur, ça peut être une très bonne chose, parce que c'est inspirant de voir à quel point la couleur d'une seule note peut changer toute la vie. Et c'est ça pour lui. Il cherche sans limite ses couleurs, la profondeur de chaque note, l'expression de toutes les phrases.
On sait qu'il fait ça avec les instrumentistes, s'il a un pianiste en face de lui, un violoniste, en effet, sur chaque note, sur l'intérieur de cette note-là. Mais quand on a 80 musiciens en face de soi, faire la même chose pour 80, ça doit être un enfer.
C'était un peu intéressant d'être entre lui et l'orchestre de la radio danoise. Parce que pour lui, il n'a pas de limite. Alors, on insiste, il a toute la musique dans cette set. Et les musiciens, on a peut-être 3-4 jours pour répéter une telle grande pièce comme ça semble. Alors, il attend tout de suite que tout soit parfait, ce qui n'est pas possible, c'est évident. Alors, c'est un jeu, si on peut utiliser le mot, un jeu psychologique, d'essayer de garder l'inspiration pour les musiciens et de satisfaire un compositeur comme Courtag, qu'on peut pas satisfaire, bien sûr.
Grande exigence, il va avoir beaucoup donc du coup de distance avec ça. C'est ce que j'ai l'air de comprendre, Michael Schoenwandt. Allez, ce quatuor de Gueorgui Courtag, extrait des moments musicaux.
Thank you.
Les adieux extraits des six moments musicaux, opus 44 de Gheorghi Korta, comme dans l'œuvre de Haydn, ça s'en va au fur et à mesure, les instruments ils quittent pas la pièce, mais en tout cas, le son, lui, a l'air de quitter ce qu'on entendait ici. Gheorghi Korta, donc, le deuxième choix de ce soir, de Michael Schoenwandt, qu'on retrouve depuis pas mal de jours, déjà à l'Opéra de Paris, pour ce Wozzeck d'Almanberg que vous donnez. C'est la reprise de la production qui était signée Christophe Martaler. Du côté de la Bastille, il reste encore deux représentations, Michael Schoenwandt, sous votre direction, vendredi et lundi. Vous nous faites l'amitié de venir ce soir alors que vous étiez sur scène. Il n'y a pas une heure. Hein.
Non.
Vous sortiez heure, juste. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on sort tellement... parce que c'est relativement... Si, j'allais dire c'est court, votre sec, oui. Enfin, quand on a fait une heure, trois quarts de spectacle d'affilée comme ça, on sort fatigué, on sort comment? Parce qu'après après votre sec, les spectateurs sont toujours totalement bouleversés. Quelque chose est... C'est détaché de nous, en fait. C'est pareil quand on dirige.
Mais vous voyez, la concentration qu'on vient d'entendre dans la musique de Kotak, eh bien, c'est la même chose pour Berg. Mmh. C'est tellement concentré, c'est tellement à la fois moderne et dans la tradition. Mmh. Kotak, c'est aussi la musique nouvelle. Et une musique qui était toujours là, il y a 500 ans. Mais vous avez raison, de sortir après Wozzeck, c'est comme si on a dirigé... Salomé ou Electra de Strauss, qui dure une heure, trois quarts, mais aussi. On est complètement bouleversé, fatigué, crevé, aussi crevé que si on a dirigé un opéra de Wagner, parce que le rythme dans le spectacle est tellement concentré. On donne toutes ces émotions au bout du 40 ou 90 minutes, là. Alors on est vraiment fini, crevé.
Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là, alors? Mais à part le soir, on vient faire une émission de radio, en général,
Pas toujours.
Hein. Non, en général, vous faites quoi, plutôt? Vous allez vous reposer ou au contraire, vous avez besoin de faire autre chose, de penser à autre chose?
Oui, j'ai besoin de silence, j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin d'un peu de manger aussi, bien sûr, je ne peux pas manger avant. Et puis, deux heures ou deux heures et demie après le spectacle, la fin du spectacle, tout à coup, il y a quelqu'un qui arrive avec un marteau, et je dors. Ah oui. Voilà, comme ça, tong, d'un jour à l'autre, c'est les chutes d'adrénaline qui arrêtent là, voilà, et je suis complètement fatigué.
Ouais. Ce qui est bouleversant dans votre texte, c'est évidemment le destin de ce personnage, qui est un destin de personnage, comme il dit, comme Berg fait écrire après Büchner dans l'opéra, Wir haben Leute, nous pauvres gens, donc c'est finalement, ouais, c'est la première fois qu'on voit finalement sur scène presque quelque chose d'aussi misérable, quoi, d'une description sociale.
Ce sont de vraies personnalités, n'est-ce pas? Des vrais personnages. En même temps que Berg écrit Wozzeck, il y a Richard Strauss qui se retire de ce monde des personnes réelles et qui entre dans ce monde des dieux, des vieux contes, de tout ça.
De duchesse.
Oui, c'est ça, exactement. Mais ici, Berg, il entre vraiment dans notre société, il veut parler à nous avec des vraies personnes. Et c'est ça qui me touche. Profondément, quand je fais mon Wozzeck, que ce sont des vraies émotions, des vrais personnages qu'on a, les problèmes essentiels de tous les êtres humains.
On peut se reconnaître dans beaucoup de choses et dans beaucoup de personnages de Wozzeck. Bien évidemment, Wozzeck, le personnage de Marie également. Est-ce qu'il y en a un qui, pour vous, est plus celui auquel vous vous identifiez de personnage, l'un de ceux qui a l'impression qu'il vous fait résonner intérieurement?
Non, pour moi, c'est la société, de créer cette société, cette misère qui est à l'intérieur de votre siècle. Le fait que le destin frappe tout le monde, tout le monde sur scène va être frappé par le destin, par la mort. À la fin, il y a ce grand interlude en ré mineur qui est un adieu à la fois à la vie de votre siècle, mais aussi à la vie qu'on a eue dans le 19e siècle. Musicalement aussi, c'est vraiment la nature. On ne peut plus écrire la musique en ré mineur. Et ré mineur, c'est la tonalité traditionnelle de la mort. Mmh. C'est clair. Le Requiem de Mozart, par exemple, c'est ré mineur. Alors, c'est vraiment quelque chose qui fait très 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 lourd dans mon cœur.
Ah ouais. Et surtout le personnage de l'enfant aussi à la fin qui revient refaire.
Oui, mais c'est on a juste dit adieu avec cette interlude. Et puis il y a des enfants. Mais quel avenir est-ce qu'on donne à nos enfants? Sans parents, sans rien, qu'est-ce qu'on veut offrir à nos enfants? Et c'est la question que nous posons aujourd'hui dans notre société aussi.
La société danoise se la pose aussi cette question, parce qu'on a l'impression, vu du Sud, qu'au Danemark, tout va bien, comme tout va bien dans tous les pays du Nord, en règle générale, et que les problèmes, ils sont que chez nous. Quand vous voyez les choses, vous mettez quelque chose.
Oh non, on n'a pas envoyé nos problèmes à vous, hein. On a nos problèmes à nous aussi dans notre société. Mais il est vrai aussi que le monde qui est globalisé maintenant, on peut pas échapper aux problèmes que nous confrontons tout le monde.
Et la musique, elle se porte comment là-dedans? Tiens, au Danemark, par exemple, la plus musique, évidemment, celle qui nous intéresse, celle qu'on dit classique.
Ah, mais la musique ne peut pas vivre sur notre planète. La musique est toujours une réflexion sur la société, sur la vie que nous menons ensemble. Et il est vrai que le rapport vers la musique sérieuse, je ne veux pas dire classique, sérieuse, est différent maintenant qu'il y a 20 ans, que 25 ans. Et moi, je batte vraiment pour le fait de la musique a une transmission d'émotions qu'on peut vivre qu'à travers d'une expérience live, avec des concerts, d'une salle d'opéra. On sent des êtres humains, les corps, qui sont en train d'exprimer quelque chose vis-à-vis de nous. Et nous, les musiciens, sentent bien sûr le public, la présence du public. Et on parle ensemble comme ça, sans parole.
Mais quel chemin vente, le troisième choix, il est jazz. Dans Looking at You, on entendait ici Oscar Peterson, Stéphane Grappelli en quartet avec à leur côté Nils Henning, Ørsted Pedersen et Kenny Clarke, le troisième choix du soir de Michael Schoenwandt. Surprise du jazz et celui-ci d'Oscar Peterson. Pourquoi, Michael?
Oh ben, il y a beaucoup de raisons. D'abord, mon père était jazzman, donc alors je déteste les étiquettes dans la vie. On peut aimer le jazz, on peut aimer le rock, si on est musicien classique, c'est pas ça. Alors pour moi, il n'y a pas de distinction entre les différentes sortes de musique. Ensuite, Nils Henning Ørsted Pedersen, c'était le plus grand contrebassiste danois de jazz, avec une technique absolument fabuleuse. Il a joué avec Ørsted Pedersen tout le temps. Et il était le prof de ma fille.
Ah oui, alors, aussi, c'est ça. Elle est contrebassiste, c'est ça?
Oui, de jazz. Elle était son dernier élève, juste avant sa mort. Alors, c'est un bon jour de lui aussi. Je l'adore. La façon c'est le contrebassiste qui joue le plus juste presque dans tout le groupe de jazz. Et voilà, son technique de jouer le pit avec trois doigts. Alors, il a une rapidité qu'on vient d'entendre dans le solo d'un. C'est lui qui a créé cette technique.
Ouais, mais ça veut dire que tout le monde est musicien dans votre famille, Michael Schoenwandt?
Non, ouais, c'est une maladie chez nous.
C'est une bonne maladie. Ouais.
Non, c'est ça, mais mon fils aussi, il est percussionniste, donc voilà. C'est comme ça.
D'accord. Bon.
On aime bien la musique chez nous.
Ah ben je comprends, il y a de quoi, et puis on le voit bien. L'orchestre de l'Opéra de Montpellier, que vous dirigez depuis 2015, Michael, là, vous êtes installé là-bas, maintenant, définitivement, à Montpellier, où vous faites des...
Non, j'habite à Copenhague, mais je fais aller-retour tout le temps, alors je suis à Montpellier 3 mois par an. C'est une des plus belles surprises de ma vie. C'est devenu une vraie relation d'amour entre l'orchestre et le public et moi. Alors, je suis tellement heureux là-bas.
Alors, vous y êtes pour 3 ans. On espère que ça va se poursuivre encore un petit peu. On ne peut pas dire grand-chose du programme à venir parce qu'il n'est pas encore donné le programme de la saison prochaine. Vous assurez combien de productions là-bas à Montpellier cette saison?
L'année prochaine, je vais faire 2 productions d'opéra et puis, je crois, 9 programmes symphoniques.
Parce qu'il y a beaucoup d'orchestres aussi.
On fait moitié-moitié. Et pour moi, être directeur musical ou chef principal, c'est aussi être père de famille. Oui. Donc, je ne peux pas me diviser entre 2 ou 3 orchestres. Si je prends un poste comme directeur musical ou chef principal, je suis là et que là. Alors, je m'engage à 100% pour mon orchestre. Et je trouve que l'orchestre et l'opéra de Montpellier est vraiment de nouveau installé dans la société montpelliéraine. Montpellier qui a une ville à la taille humaine où on peut avoir beaucoup de contacts avec le public. Vous savez, un quart de la population à Montpellier, ce sont des étudiants. Donc on a une atmosphère très jeune, très 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 vivante, et on peut faire et nous faisons beaucoup de programmes un peu inattendus, différemment. Par exemple, j'ai fait les 3 dernières symphonies de Mozart. Et on a invité tous les étudiants à venir, à assister à la générale. Je suis venu 2 heures avant la générale, et je vois une longue foule sur la place de la Comédie à Montpellier. J'ai dit, tiens, il y a beaucoup de monde qui va au cinéma ce soir. Mais non, ils ne vont pas au cinéma, c'était les étudiants. Il y a 1000 étudiants au mois de janvier qui voulaient assister. On a dû refuser presque 1000 étudiants. La salle était comble. On a eu des applaudissements après chaque mouvement. Alors, c'est vraiment atmosphère rock. Et on a dirigé pas au public. C'était fabuleux. Et les lendemains, j'ai rencontré beaucoup d'étudiants dans la rue qui me disent, mais c'est la première fois qu'on a assisté à un concert classique. C'est chouette, hein, c'est cool. C'est très bien.
Il y a eu quand même quelques problèmes financiers à l'Opéra de Montpellier il y a quelques temps. On est où maintenant, tout ça?
On est en train de rétablir ça, mais c'est pas qu'à Montpellier qu'il y a des
problèmes
financiers.
Oui,
c'est partout. Soit on fait avec, on vit avec, ou soit on ne fait pas. Mais je crois qu'on a redressé la maison maintenant. Et comme on dit en danois, on a tourné le bateau. Je crois qu'on va dans une très bonne sens. Personne ne parle plus des problèmes à Montpellier. Maintenant, on parle de la musique, des expressions artistiques qu'on fait là-bas. Alors, je suis très heureux.
La prochaine fois qu'on pourra voir Michael Schoenwandt diriger à Montpellier, ce sera donc la semaine prochaine, vendredi et samedi. Vous ferez un programme Britten Stravinsky avec L'Oiseau de Feu et puis le troisième concerto de Béla Bartók avec Dejörlenki. Et puis je rappelle que vous dirigez Michael Schoenwandt, Wozzeck, Allmendberg. Ça, c'est à l'Opéra Bastille pour encore deux représentations, vendredi et lundi prochain, le 15 mai.
Lionel Esparza, Classic Club, France Musique.
Il est 22h31, on va passer à Chopin et à Jean-Yves Clément. C'est Samson François qu'on entendait ici dans l'une des mazurkas de Frédéric Chopin, la 37e opus 59, numéro 2. C'est vraiment le... Oh, c'est pas le cœur de la production de Chopin, mais un peu quand même les mazurkas, hein, Jean-Yves Clément. Il en a composé tout au long de sa vie.
C'est surtout son fil rouge, on dirait. C'est son journal musical intime, oui, toute sa vie, de ses 14 jusqu'à ses 39 ans. Sur son lit de mort, il esquisse, dit-on, une dernière mazurka. Il y en a une soixantaine quand même, et puis il y en a plein qui sont dissimulés de façon insolite dans telle ou telle page, qui s'avoue pas en tant que mazurka, mais qui contamine en quelque sorte telle polonaise, tel rondo, comme s'il fallait rappeler à chaque fois qu'il est, malgré l'exil, un polonais, même si c'est un polonais perdu, si je puis dire, en France. Chopin, donc c'est très déchirant, et c'est très important, ces mazurkas.
Ouais, il s'en est jamais vraiment remis de cet exil polonais, hein?
Il s'est jamais remis de peu de rien, de... Chopin, finalement, de naître et de vivre.
Oui, c'est l'impression que ça donne dans votre livre.
Mais oui, il est resté enfermé dans son seul piano. Mais c'est vrai que son exil a été vécu réellement comme une déchirure existentielle insupportable. Et il a jamais pu revenir en Pologne. Je crois qu'il aurait jamais voulu. En fait, il l'emmenait avec lui dans sa musique. Elle poudroie comme ça jusqu'au bout, justement par le biais des mazurkas qui deviennent de plus en plus des prétextes et plus des danses polonaises, mais des choses qui sont comme le laboratoire de son œuvre, où finalement le sol originel devient une sorte de sublimation pour dire quelque chose qui reste perdu, mais que le vrai sol de la vie de Chopin, c'est la musique et rien d'autre, puisque Chopin est un être totalement désincarné, on peut le dire. C'est le contraire même de son ami Franz Liszt. Voilà, c'est lui qui l'a dit, c'est pas moi, très bien.
Parce que je vous ai lu, simplement. J'ai lu dans vos yeux.
L'être le plus incarné, le plus vivant, le plus ouvert de tous les artistes et de tous les musiciens. Chopin est totalement son contraire.
Les deux âmes de Frédéric Chopin, c'est donc le titre de votre dernier livre, Jean-Yves Clément, il vient de paraître chez Le Passeur. Les deux âmes, parce qu'en fait, Chopin, pour vous, c'est qu'une histoire de double, finalement, hein, comme Schumann, mais très différemment.
Oui, c'est fait un peu comme Schumann, et de façon presque schizophrénique, ça s'entend dans les préludes, qui sont une succession d'états d'âme, comme ça, fermés sur eux-mêmes, tout à fait stupéfiants. Des états d'âme, la joie est la plus haute possible, mais elle alterne avec une la dépression la plus profonde, la plus insupportable, et de façon comme ça clinique et répétée à l'envi 12 fois 2 presque. Donc oui, et Chopin, il est déchiré parce qu'on l'a dit, c'est l'exil, mais c'est aussi un père français, ne l'oublions pas, une mère polonaise. D'ailleurs, son cœur est dans un pilier de l'église Sainte-Croix de Varsovie, mais son corps est au Père Lachaise. Et puis, c'est un être taciturne, mais qui est quand même social. C'est un romantique, mais c'est un romantique classique. Enfin, voilà, on pourrait multiplier comme ça les paires d'opposition qui font de cet être étrange quelqu'un de profondément clivé, oui.
On a parlé déjà de Franz Liszt, l'opposition entre les deux. Alors, vous en faites un des fils rouges de votre livre. Hein. Vous dites, pour Chopin, le piano est un monde clos, autosuffisant, le seul dans lequel il respire librement, berceau et tombeau en même temps. À l'opposé, chez Liszt, le piano est un vaisseau ouvert sur le monde et ses conquêtes. Et en effet, c'est vrai qu'on a l'impression que le piano sert à Liszt finalement à s'ouvrir sur l'univers, alors que Chopin, c'est vraiment l'enfermement, l'intériorité.
Le renfermement sur soi. Le piano chez Liszt, c'est Mazeppa, c'est conquérir des espaces nouveaux, et des espaces au sens géographique, prêcher la bonne parole musicale, mais des espaces musicaux, puisque je prends Liszt pour véritablement un des plus grands génies de l'histoire de la musique. La musique du XXe siècle, de Berg ou d'autres, Busoni le disait, Schoenberg aussi, sans Liszt, on voit pas trop ce que ça aurait pu donner, finalement. Liszt est plus important pour l'histoire de la musique que Wagner. Je crois que Schoenberg disait ça. Voilà. Mais Chopin, qui est donc un être fermé sur lui-même, est aussi un harmoniste incomparable, et finalement, il a influencé d'un côté les grands russes que furent Scriabine et Rachmaninov, et de l'autre, Ravel et Debussy, c'est pas rien non plus. Donc ces deux-là sont des personnalités majeures de la musique du 19e siècle.
L'alpha et l'oméga de notre modernité, on va dire ça, non, c'est un petit peu trop dire ça quand même.
Oui, pourquoi pas. Mais Chopin est une île, île, et pas une île joyeuse, oui, forcément, alors que Liszt embrase les 5 continents, c'est ça? Il y en a 5. Hein,
oui, il a eu une telle générosité aussi de Liszt, n'est-ce pas? Alors, il était ouvert à tous les autres compositeurs de son époque. Voilà, ben, je crois.
Et puis c'est l'invention du poème symphonique. Ouais. C'est l'invention d'une façon de faire de la musique qui est nouvelle. Prendre une cellule et pouvoir dire le dieu et le diable avec la même chose. La transformation thématique, c'est quand même un procédé compositionnel qui est incroyable.
Oui, ben, absolument.
Et infernal. Divin et infernal en même temps.
Alors, puisque vous avez évoqué les préludes de Chopin, Jean-Yves Clément, voici quelques-uns. 4, joués par Evgeny Kissin, cet extrait aussi de votre discographie personnelle qu'on retrouve dans
Le
livre.
Ah oui, Kissin, ça et la Sonate funèbre, c'est un disque historique pour moi.
Thank you.
quatre préludes de Frédéric Chopin, extrait de son opus 28, était joué par Evgeny Kissine. Jean-Yves Clément, on revient à votre livre, à ce que vous nous racontez sur Frédéric Chopin dans ses deux âmes, puisque c'est le titre qu'il porte, ce livre. Il y a cette idée aussi, ça c'est plutôt un peu surprenant pour un romantique, qu'il ne faut pas faire trop de liens entre la biographie de Chopin et son œuvre. Ça surprend ça quand même.
Oui, pour moi, pour les raisons que j'ai dites précédemment, c'est-à-dire qu'il était si peu incarné qu'en fait, sa vie se déroulait à son insu, si je puis dire. Toute sa vie n'était que musique, n'était que son œuvre. Et les événements de sa vie rentraient, à mon avis, peu en ligne de compte par rapport à son œuvre.
C'est exactement, certains temps, vous avez l'air de dire que pour certaines œuvres, justement, au contraire, l'œuvre, enfin, la vie en quelque sorte une résonance dans l'œuvre, mais qu'elle est complètement masquée, cachée, qu'il ne faut pas regarder ce sens comme ça, le voir affleurer.
Mais en tout cas, mais évidemment que l'influence existe par moments, mais Chopin le masque très certainement. Et puis nous, on n'est pas là non plus pour chercher de l'anecdotique ou du romanesque dans une musique pareille. Lui s'en défendait, il avait raison. Il s'en défendait même par rapport au mazurka, dont il disait qu'elle racontait des petites histoires, mais de façon abstraite, et qu'il fallait à tout prix évacuer l'idée d'un folklore authentique. Vous savez que dans toutes les mazurkas, on trouve à peine une mélodie authentique, et encore, c'est pas certain, tout est réinventé. Donc tout est idéalisé, sublimé. Et la vie de Chopin n'est aussi qu'une vaste sublimation. Il n'y a pas de vie, à proprement parler, de Chopin. C'est très étonnant comme sensation.
Personnage pas nécessairement très très sympathique, hein, très égocentrique en revanche. Alors vous avez quelques citations là-dedans, soit de Liszt, soit de Georges Sand, soit d'autres encore,
qui
sur son caractère.
Cette étrangeté, cet enfermement.
Oui. Une de Georges Sand, il ne comprenait que ce qui était identique à lui-même. Ce qui est surprenant comme...
Oui, et parce que justement, il était étranger au monde qui l'entourait, à la société même de son temps, même s'il y brillait par moments dans les salons. En même temps, c'était pas du tout son monde. Il y a un côté proustien chez Chopin. Vite, vite, ma cellule, afin que je crée. Mais en même temps, l'aristocratie est à marche-pied merveilleux pour accéder quand même. N'oublions pas que Chopin est un bourgeois. Il faut réussir. Il faut aussi obtenir des leçons, séduire à l'aristocratie, d'où les dédicaces. Il faut trouver des élèves parce que Chopin n'avait pas tellement d'argent. D'où aussi Georges Sand. Georges Sand, ça a été le confort et le pain béni pour enfin créer. C'était aussi la paix des champs pour la santé. Ça a été un havre de paix qui a permis l'éclosion incroyable de toutes ses œuvres. Mais encore une fois, vous voyez, Nohant, puisqu'on en parle, c'est peut-être une cinquantaine de chefs-d'œuvre, mais on voit pas quelle interaction directe il peut y avoir entre ce modeste coin de Berry, aussi champêtre et agréable soit-il, et l'œuvre incroyable que constituent les scherzos, ballades, sonates, mazurkas, nocturnes, insensés, écrits en même temps à Nohant.
C'est quand même une période incroyable, cette histoire de Nohant, parce que vous racontez bien, enfin on le sait, mais c'est vrai que là, on le voit au fur et à mesure des années qui passe auprès de Georges Sand dans ce livre, c'est qu'avant, bien sûr, il écrit, après il écrira encore un tout petit peu, il n'aura pas vraiment le temps. Mais ces quelques années à Nohant, là, toute sa production se fait là, finalement, l'essentiel.
Oui, bien sûr, mais je crois qu'après, il n'écrit plus précisément. La perte de Nohant, c'est la perte de la langue musicale, c'est son dernier exil. Georges Sand le chasse, entre guillemets, bon, ça les regarde, hein, pourquoi, comment, on s'en fiche un peu aujourd'hui, mais 2 ans après, c'est la mort, et dans l'intervalle, il n'y a presque plus rien. Nohant, c'est une île. Chopin aime les îles, même si à Majorque, ça a été un désastre. Il a aimé y aller. Il a créé des pages très noires, très sombres, mais essentielles. La soie de funèbre vient de là. Et Chopin, il aime les îles parce qu'il aime l'isolement. Il aime le piano, qui est aussi une île, une protection. Il aime tout ce qui le rassure et qui l'enferme encore davantage. Nohant a été une île bien heureuse, oui, qui a permis cette éclosion. Et on doit rendre grâce à Georges Sand pour ça.
On va écouter ici Bruno Rigouteau, que vous avez choisi, hein, c'est votre choix chopinien du soir.
Jean-Yves Clément. Je l'aime beaucoup et nous partageons de temps en temps la scène avec les modestes poèmes que j'ai commis sur les 21 nocturnes de Frédéric Chopin à la demande de Brigitte Engerer.
Bah, on en reparlera juste après, parce que ça,
quand vous voulez.
Ce sera présent au Festival de Nohant, justement. Ah oui. Le 5e nocturne, donc, par Bruno Rigouteau. Le cinquième nocturne, opus 15, numéro 2 de Frédéric Chopin, a été joué par Bruno Rigotto. Je vous rappelle une dernière fois le titre du livre de Jean-Yves Clément, Les deux âmes de Frédéric Chopin, qui vient de paraître chez Le Passeur.
Lionel Esparza, Classic Club, France Musique.
À 22h50, Jean-Yves Clément, il faut qu'on dise quelques mots aussi de votre festival, le Festival de Nohant, qui se déroulera à partir du 3 juin et jusqu'au 25 juillet cette année. Ça fait quelques années que vous dirigez, combien, 22, 23 ans, je compte bien?
Que je co-dirige avec Yves Henry, oui, qu'on se supporte mutuellement comme un couple. Oui. C'est ça, Nohant, c'est les couples qui durent quand même.
Et vous n'y restez que 2 mois par an, donc ça va.
Depuis 1995, oui.
Comme pas rien.
Et avant, c'était que juin, d'ailleurs, on a créé un doublon en juillet, et maintenant c'est devenu un gros gâteau.
Alors comme toujours, il y a beaucoup de choses dans la programmation de Nohant, c'est-à-dire des concerts bien évidemment, mais beaucoup de rencontres aussi, oui. Des tremplins découverts, des causeries.
Oui, une animation un peu littéraire dont je me charge, oui, j'aime bien ça. Bah, le romantisme de Nohant, c'est aussi la littérature quand même.
Même si vous dites que Chopin n'était pas du tout littéraire, lui, pour le coup.
Non, pas du tout. Plutôt anti-littéraire. Ouais. Non, non. Il n'aimait que Mozart, les Beatles et moi. Comme... Non, c'est pas ça, mais c'était...
Moi, il l'aimait bien.
Et
les
Voltaire. Beatles, je sais pas, il n'aimait que Mozart et Voltaire. Voltaire de son père. Ah, oui, le reste, tout ça, toute la littérature romantique, même Shakespeare, l'effrayait, Berlioz, n'en parlons pas, etc. C'est vraiment un classique, Chopin, égaré chez les romantiques. Delacroix, il l'aimait d'un certain aspect, mais de l'autre côté, le côté sauvage l'effrayait aussi.
Il aimait d'amitié, surtout parce que c'est des vrais amis tous les deux.
Hein. Oui, des vrais amis, oui.
Pardon, je reviens à Nohant, quand même. Il y a ses causeries, il y aura plein de beaux mondes. Bruno Mont-Saint-Jean, Michel Onfray, ils parleront de quoi, en fait? De Chopin, ou plutôt les thèmes sont beaucoup plus
alors,
larges?
Bruno de Glenn Gould, cette année, parce qu'on l'a évité les autres années, mais c'était légitime quand même que Glenn Gould y passe. Et Michel Onfray, qui aime beaucoup la musique, vous savez, Lionel parlera de sa vision, justement, du romantisme.
Ouais, il aime ça, le romantisme, Michel Onfray.
Il aime beaucoup Hector Berlioz, il aime Chopin. Oui, bien sûr, il aime le romantisme. Je trouve que c'est quelqu'un de romantique, Michel.
Tout je ne sais pas, je ne connais pas. Mais, non,
Il a quelque chose de volcanique en lui qui quand même de peu convenable, qui dérange un peu l'ordre convenu, justement, qui le rend, à mes yeux, assez romantique.
Côté concert, on ira à un récital de Nelson Gurner, par exemple, batterie Soria Monzon, qui viendra chanter aux côtés de Yves Henry, un concert autour de la Calasse. Tiens, elle fera le répertoire de la Calasse, c'est ça?
C'est écrit par notre ami Alain Duhaut. Ouais. C'est pour les 40 ans de la disparition de grande dame du chant. Mais le chant, le bel canto, c'est l'art de Chopin même, donc c'est normal qu'il existe aussi chez nous. Rossini, Bellini était son ami, vous savez, Donizetti, il aimait ça plus que tout le reste.
Et puis il aimait les chanteuses surtout. Hein.
Ah, enfin, oui. Du début à la fin, Constance Gladowska, son amoureuse de Varsovie, pour laquelle il écrit un peu ses concertos, jusqu'à Delphine Potocka qui sera sur son lit de mort, chanteuse aristocrate, en passant par Jenny Lind, qu'on est évoqué avec Michael.
D'ailleurs, on ne prononce pas Jenny Lind comme je le croyais. Comment vous dites?
Jenny Lind.
Je le saurais. Henriette
Sontag, Pauline Viardot, grande amie et complice de Chopin. Et puis Adolphe Nourry, le grand Nourry, qui s'est suicidé à Marseille, et Chopin revenait de Majorque, et du coup il a joué à son enterrement de l'orgue pour les funérailles de Nourry, grand chanteur du bel canto.
On a beau parler du festival de Nohant, on revient tout le temps à Chopin, hein, on vous empêche pas.
Lui, je serais pas là, et puis on n'existerait peut-être plus.
Nikolaï Louganski, lui, son concert, ce sera le 24 juin, il jouera du Tchaïkovski et du Chopin, bien sûr, et puis ça se terminera le 25 juin pour un concert de musique de chambre avec Renaud Capuçon et Guillaume Bellhomme, donc le festival de Nohant, du 3 juin au 25 juillet. Ah oui, j'ai même pas vu, c'est derrière.
Oui, il y a 8 jours.
Ah oui, j'ai vu ça, comment d'accord. Et c'est quoi, en fait, le récital que vous faites avec Bruno Rigouteau?
Je crois que c'est le dimanche 23, c'est ça, donc tous les nocturnes avec mes micro-poèmes intercalés entre les chefs-d'œuvre du Sir Chopin joué par Bruno Rigotto. Oui.
Mais c'est vachement loin, les nocturnes, comment il tient sur scène Rigotto? Parce que ça tient aussi une heure et demie, quoi. Oui, c'est pas le délire, enfin, quand
c'est,
même.
C'est deux petites heures.
Ah oui, c'est ça, oui.
Bien sûr, c'est. Oui, ça très va. Bien. Un opéra de Wagner, c'est 5 heures. Hein.
C'est vrai, et vous préférez Chopin, je crois, ou Liszt.
J'aime aussi Wagner, mais dans un nocturne de Chopin, il y a souvent autant que dans Tristan.
Ouais.
Ça va, il est d'accord, ça m'a fait peur.
Le prochain livre, vous avez déjà une idée, Jean-Yves Clément, parce que vous en faites un parent, me rappelez-vous tout à l'heure.
Le prochain livre ne sera pas sur la musique, on va la laisser reposer un peu, c'est comme les crêpes, et puis on y reviendra en 2-3 ans.
Un petit peu plus tard. Oui. Merci en tout cas à tous les deux d'être venus me voir, Michael Schoenwandt et Jean-Yves Clément. On va refermer cette émission avec le dernier choix pris dans la discographie personnelle de Jean-Yves Clément. ans, c'est les études par Maurizio Pollini.
Ah, quand même, oui.
Incontournable, magnifique.
La Bible.
Mais j'ai choisi quand même une triste, hein, parce que là, tous les titres, votre livre est triste. Donc j'ai choisi une triste.
C'est l'âme de Chopin qui est triste, c'est pas moi.
Ah, j'ai pas dit que c'était vous. C'est le livre. Frédéric Chopin, la sixième étude de l'opus 10 avec cette petite tierce majeure finale comme ça. C'est comme sidérant ça, hein, au moment où elle arrive là, hein, Jean-Yves Clément.
Oui, puis l'entrelacement polyphonique, pour le coup, quasi wagnérien, ouais. Bien avant l'heure, oui, c'est génial.
Oui, c'est plus que génial.
Il y a beaucoup et un drame en 3 minutes quand même.
Oui, c'est ça. J'ai l'impression que c'est ça que vous voyez aussi, le côté opéra chez Chopin. C'est pour ça qu'on a appelé l'émission comme ça aussi,
oui.
C'est vrai. Hein, comme
oui,
si les pièces étaient plus opéra.
Bah, dramatique. En fait. C'est dramatique, romantique quand même, malgré tout.
C'était donc Maurizio Pollini, je l'ai dit, qu'on entendait ici dans cet extrait des études d'Opus 10. Nous étions ce soir avec Flora Sternadel, Maud Nourry, Antoine Courtin, Olivier Leroux et François Rivalan.
Voici le ciel peuplé de ces moutons blancs, voici la mer troublée, spectacle troublant.
Je vous retrouve demain, nous serons avec Louis Langrais et Philippe Cassard et nous parlerons de Pelléas et de Debussy.
J'entends la ville qui me dit bonsoir et moi sur le quai de la gare, je dis de mon mieux des mots d'adieu.
Retrouvez toute l'actualité musicale sur francemusique.fr.